Bonjour. D'abord, je voudrais remercier évidemment les organisateurs de ce beau colloque. Il y a des colloques totalement inutiles, mais le sujet là n'est vraiment pas inutile, puisque c'est un sujet très important, évidemment. Je voudrais formuler plusieurs excuses. D'abord, mon excuse pour mon absence pour des raisons professionnelles. Excuse aussi parce que je ne vais pas traiter exactement le sujet qui est annoncé sur le programme. Pour une raison simple, c'est que je n'ai pas eu le temps, et dans le temps qui m'était imparti, j'ai préféré privilégier un peu autre chose. Donc j'ai légèrement déplacé ce que je vais dire ou ce que j'avais prévu de dire. Et je vais parler plutôt du commun, des biens communs, non pas d'un point de vue technique, non pas d'un point de vue juridique. Je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions non plus. Je vais en parler plutôt comme une sorte d'alternative politique, d'imaginaire politique, voire de nouvelle utopie, qui travaille un petit peu, le champ militant, notamment dans les milieux altermondialistes, mais pas seulement. Et donc c'est un petit peu cette question du commun comme alternative politique que je vais essayer de situer dans les débats actuels. Je vais parler pas mal de l'Italie, mais pas seulement de l'Italie. Et comme il y a deux grands spécialistes et il y a deux Italiens, je m'excuse parce que je suis pas par nécessité. Je pourrais ne pas l'être, mais sans doute beaucoup moins compétent que vous. Donc j'espère que vous serez un peu indulgent, puisqu'il y a deux spécialistes et deux Italiens ici. Je vais essayer de situer un peu le débat en privilégiant effectivement l'Italie, parce que c'est notamment en Italie que cette question est très fortement posé. Par ailleurs, enfin, je m'excuse parce que ce sera très documentaire. Je vais essayer, parce que le public français ne connaît pas nécessairement très bien ces débats italiens. Il y a eu hier quand même, je crois, deux exposés, un sur Negri et l'autre sur le bouquin de Dardo Laval, qui doit beaucoup, je crois, à certains débats italiens. Mais cela dit, c'est un sujet pas très bien connu, donc il y aura une dimension très documentaire. Je pense que c'est nécessaire avant de discuter. Donc, qu'est-ce qu'on entend par bien commun? Je dirais non pas tant dans le champ scientifique, mais dans le débat, politique. Voilà la première chose que je voudrais... Je vais peut-être voler votre montre, parce que je sens que j'ai tendance, j'ai chaque fois peur de parler trop ou pas assez. Merci beaucoup. Donc je vais donner quelques définitions, tout simplement. Et je vais partir d'une définition qui date des années 2005, à peu près, de Riccardo Petrella, qui a animé un des groupes de théoriciens du bien commun dans une université du bien commun qui s'appelle l'Università del Bene Comune. Et voilà ce qu'il dit. Et là, je vais donner une série de définitions, au fond, pour savoir de quoi on parle sur ce bien commun et sur cette théorie du commun. Alors, par exemple, chez Petrella et ses proches, le bien commun est constitué de l'ensemble des principes, des institutions, des moyens et des pratiques que la société se donne pour se garantir à tous une vie humainement décente, assurer un vivre ensemble pacifique, convenable et coopératif entre tous, conserver la sécurité de sa propre maison et donc la soutenabilité de l'écosystème local et global, le tout en tenant compte du droit à la vie des générations futures. Le bien commun est donc la base du bien-être de la communauté, sur lequel est construit le bien-être associatif et le bien-être personnel. Pour obtenir le bien commun, poursuivent les théoriciens du bien commun, une société doit disposer de biens publics à redéfinir aujourd'hui par rapport à ceux du siècle passé. Les biens publics aujourd'hui comprennent aussi les biens nécessaires que les secteurs stratégiques pour la vie de la communauté. Alors là, ils donnent une liste, parmi eux, air, eau, terre domaniale et forêt, connaissance, éducation, santé, énergie, transport public, communication et information de base, sécurité, justice, activité financière de base, institutions politiques et surtout paix. Dans le petit feuillet qui présente ses thèses de l'université bien commun, Romano Nobile insiste sur le lien entre cette conception des biens communs et les idéaux de démocratie participative portés à Porto Alegre et plus largement par le mouvement altermondialiste. Contre la crise de la démocratie déléguée et représentative provoquée par la globalisation néolibérale, dit-il, il s'agit de revenir aux communautés locales et de redonner aux citoyens certains domaines de décision à soustraire aux institutions de la démocratie déléguée, donc de la démocratie représentative. D'autres iront beaucoup plus loin sur ce domaine, j'y reviendrai tout à l'heure, mais l'idée est clairement formulée en 2005, les biens communs ainsi compris, vont de pair avec les idées d'autogouvernement, de budget participatif, d'usage commun des ressources. Il est précisé aussi que le commun n'a rien à voir avec le vieux communisme, thème sur lequel je reviendrai. À ceux qui considèrent qu'à travers la réaffirmation des biens communs, on veut faire rentrer par la fenêtre le communisme sorti par la porte, dit-il, on peut répondre que si l'affirmation du concept de bien commun présente des analogies avec le socialisme, il n'a rien à voir avec le socialisme réel, c'est-à-dire avec l'affirmation d'un pouvoir absolu et du monopole de la part de l'État de toutes les ressources disponibles. Ça aussi, c'est un point sur lequel je reviendrai. dimension participative et dimension qui, au fond, sépare le commun de l'étatique. C'est précisément donc le contraire. Et je prendrai maintenant une deuxième définition, celle de Marco Bersani, qui est une figure de l'organisation ATTAC, qui attaque Italie, et qui a de longue date axé son combat sur la dénonciation des privatisations. Il fut en pointe dans le référendum de 2011 en Italie contre la privatisation de la gestion de l'eau, et lui aussi a essayé de donner une définition du commun et des biens communs. Sous un angle d'abord négatif, bien commun est déclaré quelque bien que ce soit, naturel ou social, qui est perçu comme soustrait ou exproprié, signalant par là la nécessité d'une réappropriation face à une pensée unique qui veut mettre sur le marché la vie entière des personnes. Alors, cette figure d'attaque distingue deux types de biens, biens communs naturels et biens communs sociaux. Les biens communs naturels sont nécessaires à la survie de chaque personne et à la vie même de la planète. Comme tels, ils doivent être gérés en garantissant l'accès universel et la conservation pour les générations futures. Ils sont reconductibles aux quatre éléments primordiaux, air, eau, terre et feu. En langage contemporain, ils sont mieux traduisibles par air, eau, territoire et énergie. D'autre part, les biens communs sociaux sont le produit des luttes populaires en faveur de l'émancipation et ils sont nécessaires à la dignité de la vie des personnes et au vivre ensemble, ou à la convivialité, on peut traduire comme ça convivenza ou au vivre ensemble, communautaire et solidaire. Comme tels, ils doivent être gérés en garantissant l'accès universel à toutes ces personnes. Ils sont reconductibles à la santé, à l'habitation, à l'instruction, à la prévoyance et à la sécurité sociale, à la mobilité, à la communication, à la connaissance et à la culture. Bersani insiste, c'est pas le Bersani évidemment du Parti démocrate, insiste sur le double registre des droits fondamentaux et l'existence d'un faire commun. Ça c'est très important dans la théorie du commun telle qu'elle est développée, c'est la dimension du faire, d'une communauté civique et solidaire. Les biens communs naturels et biens communs sociaux sont les éléments qui désignent une communauté humaine comme telle, ils sont le cœur, dit-il, du contrat social entre les personnes, ils sont l'humus de la res publica et l'élément qui permet à une agrégation de personnes de se définir comme une communauté et non comme une simple somme d'individus. Les services publics qui en garantissent la jouissance universelle ont donc des finalités d'intérêt général et doivent être soustraits à la logique du marché et de la concurrence. Voilà pourquoi, conclut le dirigeant d'Attaque Italie, ou un des dirigeants, il faut mettre en mouvement toutes ses énergies et toute son intelligence pour combattre les privatisations. Il faut dès maintenant construire un nouveau modèle de public qui doit se fonder sur la participation sociale. Alors, une certaine tension peut apparaître dans l'expression « bien commun ». Le commun est-il l'adjectif d'un bien ? Ou est-il une expression d'un faire commun, d'une auto-organisation ou d'un auto-gouvernement qui confère le caractère de commun par sa pratique commune elle-même ? Un certain nombre de partisans du commun penchent aujourd'hui très fortement sur cette dimension du faire, de la pratique commune, d'une nouvelle forme d'auto-gouvernement et, disons, d'autogestion. Là, je sortirai un peu d'Italie et je mentionnerai David Bollier, qui est un des théoriciens majeurs depuis très longtemps de cette théorie du commun, et sous un angle plus écologiste. Et David Bollier parle plutôt des communs plutôt que du bien commun. Et il en parle plutôt de la façon suivante, et il le définit de la façon suivante. Il dit « Les communs, c'est un système social en vue de la gestion responsable à long terme des ressources qui préservent les valeurs partagées et l'identité d'une communauté. C'est un système auto-organisé par lequel des communautés gèrent leurs ressources, épuisables ou renouvelables, de manière indépendante de l'État et du marché ou dans une dépendance minimale vis-à-vis d'eux. C'est la richesse dont nous héritons ou que nous créons ensemble et que nous devons transmettre intacte ou augmenter à nos enfants. Notre richesse collective inclut les dons de la nature, les infrastructures civiques, les œuvres et les traditions culturelles, à savoir un secteur de et en outre un secteur de l'économie et de la vie qui crée de la valeur de manière souvent considérée comme allant de soi, mais qui est souvent compromise par la dichotomie État-marché. Cette dichotomie État-marché, c'est au fond la cible de la plupart des théoriciens du commun. Ils considèrent que l'imaginaire politique et les représentations dominantes ont été en quelque sorte écrasées par cette grande dichotomie État-marché, j'y reviendrai. Ici, Bollier tranche les questions permanentes qui taraudent ce mouvement sur les critères objectifs du commun. Pour lui, répondre définitivement à cette question supposerait que le commun soit une essence, une substance, une chose. Or, ce n'est pas le cas. Le commun est le principe et le corollaire d'une pratique commune. Il ne peut exister d'inventaire exhaustif des communs parce qu'un commun peut émerger n'importe où dès lors qu'une communauté décide qu'elle souhaite gérer une ressource de manière collective dans une optique d'accès et d'usage équitable et durable. Ce sont des ressources où plus une communauté définit et les protocoles, valeurs et normes inventées par cette communauté pour gérer ces ressources. Il y a un besoin urgent, dit-il, de gérer certaines ressources, l'atmosphère, les océans, la biodiversité, comme des communs. Dit autrement, il n'est pas de commun sans faire commun. les pratiques et normes sociales pour la gestion d'une ressource en vue de l'avantage collectif. Les formes du faire commun varient d'un commun à l'autre en raison de la diversité même de l'humanité. Et en ce sens, il n'y a pas de modèle universel du commun, il y a seulement des affinités entre divers communs. Bref, les communs doivent être conçus comme un verbe, au moins autant que comme un nom. Ils doivent être animés par la participation à la base, la responsabilité personnelle, la transparence, l'autorégulation et la reddition de comptes. C'est pourquoi Beaulieu aime beaucoup parler des commoners, ceux-là même qui sont dans la pratique du commun, avec ses valeurs de partage, de réciprocité, de don et de démocratie. Il y a une autre tension sur laquelle je n'ai pas assez insisté, mais parce que j'insiste plutôt sur la dimension de projet politique, c'est, disons, la dimension des droits et la dimension de la communauté. Je dirais que beaucoup essayent de combiner les deux. Droits d'accès à tous et, en même temps, communauté civique et communauté de participation. J'évoquerai une troisième définition, mais comme il y a eu un exposé hier et que je suis sans doute beaucoup moins compétent que la personne qui l'a fait hier, mais j'évoquerai quand même la définition de Negri et de Hart qui est la plus connue au plan mondial, du point de vue de la philosophie et de l'utopie du commun. Le commun, mais c'est pour eux pas une utopie, puisque ce sont déjà des gens marqués par le marxisme, même s'ils s'en séparent à certains égards, c'est, disons, la définition la plus révolutionnaire et au sens marxiste. Le commun pour Negri et Hart n'est pas une chose, n'est pas une substance, mais une pratique productive ancrée dans le travail. C'est pour ça qu'ils ont été très critiques, Negri a été très critique sur le bouquin d'Ardo Laval sur cette question, mais on pourra y revenir. Une pratique productive qui est captée par le capitalisme néolibéral. Quand Negri parle de nouveau capitalisme, de capitalisme cognitif, de travail immatériel, de coopération sociale, de circulation du savoir, d'intelligence collective, il s'agit pour lui de décrire à la fois l'extension nouvelle du pillage capitaliste de la vie, son investissement non plus seulement dans l'usine mais dans la société tout entière, mais aussi la généralisation du domaine de la lutte, la transformation du lieu de résistance et la manière dont aujourd'hui ce sont selon lui les métropoles en tant que lieu de production qui sont l'espace des résistances possibles. Évoquant le discours néolibéral de l'endettement des individus et des États, Negri reconnaît pleinement qu'il y a bien un lien de dette entre les individus qui coopèrent au plan productif, mais cette dette n'a rien à voir avec celle des néolibéraux et rien à voir avec celle dont on parle aujourd'hui. Nous sommes toujours plus endettés les uns envers les autres, reliés non par des liens financiers, mais par des liens sociaux. La nouvelle situation économique a fait émerger et a développé, selon lui, les figures subjectives qui se distinguent par cette interdépendance sociale et ce qu'il appelle la production biopolitique, ainsi qu'une existence investie dans les processus de valorisation fondés sur la coopération entre singularités. C'est pour lui l'occasion de préciser ce qu'il entend par commun en tant que faire productif et coopératif et donc aussi radicalement désubstantialisé. La coopération et l'interdépendance productive sont les conditions du commun et le commun est aujourd'hui ce qui constitue, dit-il, le soubassement de la production sociale. Les liens communs, les liens sociaux qui nous relient les uns aux autres deviennent ainsi des moyens de production. Notre interdépendance et notre être en commun expriment notre productivité en puissance. Donc, il continue en disant qu'au fond, il faut sortir d'une conception identitaire et naturaliste du commun. Là, on voit aussi son influence sans doute de Deleuze et de Foucault, un anti-naturalisme radical. La nature et l'identité, dit-il, sont des mystifications du paradigme moderne du pouvoir. Pour se réapproprier notre commun, il faut avant tout en produire une critique drastique. Nous ne sommes rien, dit-il, et nous ne voulons rien être. Nous, ce n'est pas une position ou une essence, une chose dont on a tôt fait de déclarer qu'elle était publique. Notre commun, ce n'est pas notre fondement, c'est notre production, notre invention sans cesse recommencée. Alors, je suis obligé d'accélérer déjà, mais donc je vais déjà sacrifier des choses qui m'avaient donné un peu de mal, mais c'est la vie. Et je vais passer à ce point quand même capital. Disons que le chapitre que je vais sauter est assez important, entre guillemets, parce que ça suppose aussi ce commun une nouvelle anthropologie, une nouvelle conception de l'homme. Et là, les partisans du commun, les théoriciens du commun, disent au fond qu'ils font réfuter radicalement la figure de l'homo economicus, qu'il faut récuser radicalement la figure de l'homme concurrent. Et au fond, sous des modalités diverses, les partisans du commun veulent promouvoir une nouvelle anthropologie, disons, de l'homme coopérateur, si on peut dire. Alors je passe quand même un point capital pour notre sujet, c'est, disons, j'appellerais ça par-delà l'État et le marché. Le bouquin de Negri s'appelle Commonwealth, ça a été traduit en italien par Comune, et il y a un sous-titre qui s'appelle Oltre, en italien on dit souvent l'oltreismo, le par-delà. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que Negri il s'intéressait beaucoup aux personnalistes. Ses premiers articles, c'est sur Maritain, c'est sur le personnalisme, c'est déjà des troisièmes voies par-delà, et donc c'est par-delà le privé et le public. Et ça, c'est une thèse très importante dans les théoriciens du commun, même s'ils sont très séparés par des visions philosophiques différentes, j'y reviendrai peut-être. Donc, ce n'est ni le paradigme du marché, mais ni le paradigme de l'État. La critique de l'État est permanente chez les partisans du commun. D'abord, ils disent, et nous sommes aussi en Italie, il y a une critique de l'État en Italie qui est particulièrement vigoureuse, l'État, son efficacité serait trop faible, il serait grévé par un très fort bureaucratisme, il serait trop autoritaire, il serait trop peu démocratique, et de plus, il serait l'allié, voire le producteur du néolibéralisme. Alors, là aussi, je vais un petit peu accélérer, mais cette idée du commun comme par-delà l'État et le marché, c'était déjà une idée qu'on trouvait chez Elinor Ostrom dans son bouquin « Gouvernance des biens communs », puisque sa réhabilitation du commun, au fond, comme coproduction de normes par un certain nombre de communautés qui s'occupaient des ressources. On a souvent pointé le fait que chez Ostrom, il y avait une critique radicale, disons, d'un individualisme propriétariste. Et donc on a beaucoup pointé cette critique de l'individualisme propriétariste, mais il y a un double volet dans la critique d'Ostrom qui est très fort, qui est au fond la critique du Léviathan, la critique de l'État, et Ostrom ne cesse de dire que la thèse qui réfutait la pertinence même du paradigme du commun conduisait beaucoup d'intellectuels, d'économistes, ou bien à valoriser finalement la propriété privée, ou bien à dire que la gestion des ressources sur le long terme devait être le fait d'un État fort. Un État fort devait être le garant, en quelque sorte, de la préservation des ressources sur le long terme. Et au fond, le paradigme qu'introduit Ostrom était, au fond, là déjà un par-delà, si je puis dire, le privé et le public. Mais en même temps, évidemment, ce par-delà a été esquissé chez Ostrom, tandis qu'il sera radicalisé comme une nouvelle vision du monde chez un certain nombre de partisans du commun. Alors là encore, je peux citer Mario Bersani, donc cette figure d'attaque, qui dit qu'il faut dépasser, au fond, le clivage gestion privée, gestion étatique. Après des décennies d'ivresse néolibérale basée sur le privé est beau, dit-il, aujourd'hui cette idéologie est entrée en crise et les privatisations conduisent à l'augmentation des coûts, à la baisse des qualités des services. Donc il faut tourner la page au fond des privatisations. Mais, ajoute-t-il, l'appel au public doit faire ses comptes avec la crise d'un modèle désormais distant des besoins des citoyens, parce qu'imprégné de logiques bureaucratiques et économistes, sinon de pratiques clientélistes et mafieuses. Et là, c'est évidemment la critique de l'État. Le public comme tel comporte certaines formes de garantie, mais il n'est pas sans possibilité, dit-il, d'expropriation. Et ça, c'est plutôt la critique de l'État comme complice, en quelque sorte, des multinationales ou complice du néolibéralisme. Il risque à la fois de capter le pouvoir au profit de managers ou de politiciens professionnels ou de techniciens, et il risque de se faire, en quelque sorte, l'agent de privatisation et donc finalement de non-conservation des ressources communes. Ça, c'est un point important qu'on trouve chez Bersani, mais qu'on trouve chez beaucoup d'autres, cette idée qu'il faut sortir, comme dit Bollier, du duopole du marché de l'État. Sortir du duopole du marché de l'État, ça, c'est David Bollier qui insiste beaucoup là-dessus. Bollier dit que la propriété d'État n'est pas du tout un antidote à la privatisation et, dans bien des cas, l'État s'empresse de conspirer avec les industriels pour les aider à accaparer les ressources en vue d'une exploitation privée, c'est-à-dire commerciale. Et donc le modèle du commun, des commoners, serait un modèle participatif, un modèle de vigilance, un modèle qui serait, au fond, la réappropriation du commun par les citoyens eux-mêmes. Et de ce point de vue-là, il y a pour Bersani, pour Bollier, un au-delà du marché et de l'État. Évidemment, il y a aussi Negri, qui insiste énormément sur cette sortie du public et du privé. Et de ce point de vue-là, Negri a un rapport ambigu, si je puis dire, au communisme. À la fois, le communisme, dit-il, a été une catastrophe bureaucratique, mais c'est une nouvelle façon de faire vivre, en un sens, le communisme, le commun, mais sous une forme qui n'aurait rien à voir, finalement, avec les sociétés bureaucratiques et le communisme tel qu'on l'a connu. Un communisme en rupture radicale, non seulement avec les régimes de l'Est, ou avec tout autre, Cuba, que sais-je encore, mais avec toutes les formes de socialisme, pour lui. C'est son bouquin qui s'appelle « Goodbye, Mr. Socialism », donc sortir du socialisme, mais sortir radicalement d'un État social de type rooseveltien, sortir d'un État social de type keynésien, ou sortir d'un État social de type républicain. Le socialisme réel, dit-il, comme le jacobinisme avant lui, avait opéré une confusion entre le commun et le public, en ramenant le commun au rang de bien ou de service de l'État, un mécanisme que l'on trouve à l'œuvre dans l'ensemble des pratiques socialistes et état-providentialistes. Le projet et la définition de la notion du commun consistent au contraire à aller au-delà des concepts de public et de privé, en dépassant ces deux catégories dans le cadre d'une gestion du commun. C'est le tout ensemble qui n'est pas une utopie. Autogouvernement du commun, voilà un petit peu la formule que l'on trouve très fortement dans cette littérature. Alors, pour le coup, c'est aussi le paradigme de l'appropriation qui est très fortement mis en cause par les théoriciens du commun. Il s'agit de récuser le paradigme de l'appropriation, non seulement dans le domaine du privé, mais aussi dans le domaine du public ou de l'État. Il s'agit de sortir du paradigme de l'appropriation et il s'agit d'entrer dans un tout autre paradigme qui serait précisément le commun, qui serait plus de l'ordre du bien domanial ou du bien patrimonial de l'État, évidemment qui ne serait pas non plus de l'ordre du privé, mais que serait celui donc d'un horizon participatif voué à la cohésion socio-économique et territoriale et la satisfaction des droits fondamentaux, ainsi que le souci des générations futures. Alors c'est là qu'on commence à rentrer vraiment dans une philosophie du commun, parfois assez radicale. Je vais citer par exemple un des théoriciens du commun qui est Ugo Mattei, qui est un juriste, et il dit ceci: un bien commun, à la différence tant de la propriété privée que de la propriété publique appartenant à l'État, propriété domaniale, ne peut être conçu comme un pur objet, une portion tangible du monde extérieur. Mattei propose une phénoménologie du commun. Il ne doit pas être pris dans la logique mécaniciste et réductionniste typique des Lumières, dit-il, qui sépare nettement le sujet et l'objet. En un mot, il ne doit pas être reconduit à l'idée moderne de marchandise. Le bien commun, en effet, n'existe que dans une relation qualitative. Et il dit aussi: nous n'avons pas un bien commun, un écosystème l'eau, mais en un certain sens, nous sommes participants du bien commun. Nous sommes eau, dit-il, nous sommes partie d'un écosystème urbain et rural. La séparabilité même entre l'être et l'avoir, tout comme celle entre le sujet et l'objet, est mise en discussion par une théorie politique qui met au centre les biens communs. Alors j'insisterai maintenant, c'est donc un peu un catalogue que je fais de la représentation ou de la vision du monde des commoners sur le paradigme autogouvernemental. C'est quelque chose qui est très fréquent. Et donc là, j'insiste vraiment sur l'utopie du commun, moins que sur les versions plus juridiques, en quelque sorte, du commun, peut-être plus modérées. Là encore, Mattei notamment, mais beaucoup d'autres, insistent énormément sur le fait que le commun, c'est au fond une pratique participative, une pratique active des communs. Et il y a notamment un groupe qui fascine d'ailleurs Mattei et d'autres, et dont il a été aussi à l'origine, qui s'appelle la Fondazione Teatro Valle Bene Comune. C'est la Fondation Teatro Valle, c'est le petit théâtre à Rome, qui s'appelle donc, il y a une fondation qui s'appelle Bene Comune, qui a occupé le théâtre. Et là, véritablement, on voit ce paradigme participatif très fort, où il est question, notamment, je cite un petit peu, parfois dans des formules extraordinairement enflammées, mais un peu vides, il faut bien le dire, nous reconnaissons que le droit vivant jaillit des luttes pour l'émancipation et l'autodétermination des peuples et des sujets. Nous entendons nous faire les protagonistes du processus de transformation qui, dans le monde, emporte le droit comme pure bureaucratie et forme et qui a produit l'émergence des biens communs au niveau constitutionnel, normatif et jurisprudentiel. Mais surtout, ils disent ceci: le bien commun n'est pas donné, il se manifeste à travers l'agir partagé. Il est le fruit des relations sociales entre pairs et source inépuisable d'innovation et de créativité. Le bien commun naît d'en bas et de la participation active et directe de la citoyenneté. Le bien commun s'auto-organise par définition et défend sa propre autonomie, aussi bien vis-à-vis de l'intérêt propriétiste privé que des institutions publiques qui gouvernent selon les logiques du privé et autoritaire, selon les logiques du privé et autoritaire du bien public. Bref, dimension conception participative, j'ajoute conception aussi qui veut repenser radicalement la politique. Là, on est véritablement aussi dans un certain discours d'une radicalité quand même, quand on regarde de près, assez extrême, puisque chez Mattei, il est très clairement dit que les partis ne peuvent pas s'occuper des biens communs, que, au fond, ce sont un paradigme horizontal, le paradigme des réseaux, le paradigme participatif, qui est véritablement le seul vrai paradigme politique adéquat à la gestion des communs, puisqu'il promeut ce qu'il appelle la diffusion du pouvoir et ce qu'il appelle aussi l'inclusion participative. Le commun constitue un autre genre radicalement antagoniste, dit-il, par rapport à la déclinaison exhaustive du rapport privé-public ou État-marché. Et donc, je m'arrête là pour ce point-là. Ce modèle collaboratif et participatif se veut, là encore, un altéré par-delà le marché et l'État. Juste un point quand même sur une certaine quand même prudence tactique chez un certain nombre de partisans du commun, parce qu'après avoir fait un hymne, si j'ose dire, à une autogestion radicale du commun, il y a une certaine prudence parfois chez un certain nombre de ces théoriciens, où plutôt le commun devient un horizon plus que nécessairement une pratique réelle. Et même chez Negri, on voit des hésitations. J'en mentionnerai deux, par exemple, Negri a toujours dit que, par exemple, sur la gestion de l'eau, il fallait une gestion participative, radicalement participative, et donc ce n'était pas du tout la réappropriation par l'État. Mais en même temps, Negri reconnaît que les luttes pour l'État peuvent, au fond, peuvent être une stratégie intermédiaire, si j'ose dire. Et donc, par exemple, il dit, c'est pas idiot, si j'ose dire, il est légitime que les étudiants se battent contre la privatisation de l'université et veulent la remettre aux mains de l'État. Mais au fond, dit-il, il faut bien considérer que c'est un moment intermédiaire ou un moment insatisfaisant. L'État est en quelque sorte un pis-aller par rapport à une gestion participative. Il y a certains cas où on peut, en quelque sorte, accepter ce pis-aller, mais l'horizon reste quand même l'horizon d'une gestion participative et d'une démocratie radicale. Pareil pour l'État-nation. Tout le monde connaît la fameuse phrase de Tony Negri au moment du traité constitutionnel européen, il faut en finir avec cette merde d'État-nation. Et l'État-nation fait l'objet d'une critique absolument radicale chez Negri, et d'ailleurs, avec des actions et situations différentes chez les partisans du commun, l'idée de souveraineté nationale est souvent mise en cause, mais avec des accentuations très diverses selon les versions. En même temps, même la nation, dans Commonwealth, Negri et Hart reconnaissent que c'est une façon quand même de faire vivre un commun, mais c'est une façon, en quelque sorte, là aussi, c'est un peu comme le capitalisme, ça capte le commun, ça vit du commun, et donc c'est une réalité un peu ambiguë. D'ailleurs, Negri compare la nation à la fois à l'entreprise, la famille, et donc il parle à la fois de la famille, de l'entreprise et du commun. Trois façons de faire vivre d'une certaine manière le commun, mais en même temps, trois façons aussi de ponctionner en quelque sorte le commun. Et de la nation, au fond, il dit qu'elle a des dérives exclusivistes, des dérives nationalistes, et donc qu'elle a une logique, au fond, intrinsèquement perverse. Mais en même temps, il peut comprendre que l'État-nation peut parfois être le foyer de certaines luttes pour préservation du commun. Donc il y a une vision un peu ambiguë sur le rôle de l'État-nation ou le rôle de l'État, qui n'est pas absolument mis hors jeu, mais qui, au fond, malgré tout, constitue, selon lui, une version perverse, une version inachevée, ou une version, au fond, mauvaise du commun. Alors, une fois de plus, il y a des théoriciens beaucoup plus modérés qui essayent d'articuler, au fond, cette vision, la vision de l'État social et la vision du commun, et qui essayent de trouver des compromis plus modérés. Le temps est passé presque, je voudrais juste terminer par quelques points critiques, notamment dans le débat contemporain en Italie. Je mentionnerai par exemple la critique du philosophe Roberto Esposito, qui a dit en quelque sorte que bon, il y avait beaucoup de choses extraordinairement intéressantes dans cette théorie du commun, mais le problème de cette théorie du commun, c'était au fond sa radicalité utopique, au fond. Et il soutenait d'ailleurs que la théorie du commun, comme la théorie de la décroissance, n'a pas d'espoir de convaincre, en quelque sorte, une majorité de citoyens, dit-il, parce qu'elle est trop contraire aux attentes, aux pulsions, aux désirs de l'écrasante majorité des gens, et pas seulement en Occident. Par ailleurs, Esposito avait suggéré l'idée d'une triangulation entre plusieurs formes, public, privé, commun, et donc moins le commun comme alternative radicale qu'une nouvelle forme de triangulation public-privé-commun. C'est aussi ce qu'a développé comme thèse une autre italienne, Laura Pennacchi, qui a beaucoup défendu cette thèse d'une triangulation public-privé-commun en disant en substance que, de toute façon, la dimension du public, comme débat public engageant toute la collectivité au plan national, mais aussi la dimension étatique, l'état social, ne pouvait pas être balayée d'un revers de main, qu'il y avait une consistance propre à ces deux dimensions. Et donc, ce sont des propositions en quelque sorte réformistes qui consistent à accepter le commun comme horizon ou ayant une place dans une nouvelle configuration, mais pas à faire du commun la panacée, comme elle dit parfois, une nouvelle mystique ou, au fond, une nouvelle vision tellement englobante qu'elle risque d'avoir des conséquences, au fond, impuissantes, si j'ose dire. Peut-être j'ai encore 3 minutes quand même.
Oui, pourrait.
2. Bon, d'accord. Juste. Et aussi, elle a une critique que je partage aussi, c'est une critique à propos, par exemple, de Mattei et d'autres, c'est une critique absolument radicale de la modernité. Toute la modernité sera en quelque sorte réduite à l'avènement d'un libéralisme génocidaire, comme dit Mattei, et d'autre part, ou alors au duopole État-propriété privée, et Pennacchi notamment récuse cette vision qu'elle trouve extraordinairement réductrice de la modernité. Alors, comme j'ai plus que 30 secondes ou un tout petit peu plus, donc je ne vais pas lire tout ce que j'ai formulé comme point critique, je dirais simplement qu'un certain nombre de points me paraissent devoir être discutés. Personnellement, je pense que c'est un horizon qui aura un grand avenir, mais un certain nombre de points me semblent discutables. Disons, j'en mentionnerai deux. D'abord, j'en mentionnerai trois. La question de l'État, la question de l'autogouvernement et la question du libéralisme. La question de l'État, dans certaines formulations, c'est une critique absolument dévastatrice de l'État qui passe, je crois, par un diagnostic qui est un diagnostic, je dirais, apocalyptique sur l'État dans nos sociétés. Le diagnostic apocalyptique consiste à dire, au fond, que l'État n'est plus que l'agent du néolibéralisme. Je crois que c'est une erreur. C'est un désaccord que j'ai depuis longtemps avec notamment Christian Laval et Pierre Dardot. Je pense bien entendu que l'État est traversé par des logiques néolibérales extrêmement fortes. Et l'Europe aussi, cela va sans dire, et la construction européenne aussi, cela ça va sans dire. Mais je pense qu'on ne peut pas, même aujourd'hui, réduire l'État social en France ou ailleurs à la pure logique néolibérale. L'État n'est pas encore le coproducteur des normes néolibérales à tous les niveaux. Je pense que, de ce point de vue-là, il y a une erreur de diagnostic, et surtout, il y a une erreur politique, parce que ça voudrait dire, en quelque sorte, qu'il faut laisser crever l'État et, au fond, jouer une carte qui ressemble beaucoup à un saut périlleux. Et de ce point de vue-là, ça me semble politiquement totalement suicidaire. Pourquoi ne pas réinvestir l'État ? Et pourquoi ne pas re-socialiser l'État et republiciser l'État ? Pourquoi, en quelque sorte, jeter l'État ? Et je pense qu'il y a une pulsion anti-étatiste dans un certain nombre de discours qui me semble problématique, même si, évidemment, je pense qu'ils ont aussi une part de validité. Le deuxième point, c'est la question participative. Mais là, j'irai trop vite. Je pense qu'il y a une utopie d'une démocratie participative pure qui me semble problématique. J'insisterai plus sur la question d'une forme d'illibéralisme radical. Dans certaines formulations, il y a vraiment l'idée, par exemple chez Mattei, une critique dévastatrice du constitutionnalisme libéral qui serait réduit à une histoire génocidaire de l'Occident. Et d'autre part, on voit beaucoup chez certaines théorisations de ce côté-là, de vision très holiste, très anti-individualiste. Il y a parfois même, j'ai trouvé même une pique d'un de ceux-là contre un mouvement pour les droits de la femme, même, il y a une allusion. Je pense qu'il y a un problème, je dirais, d'une forme d'illibéralisme radical ou de holisme radical qui pose des questions quant aux conditions de l'émancipation des individus. Je pense personnellement que tout n'est pas à jeter à la poubelle dans l'histoire du libéralisme, dans le libéralisme, même s'il faut en faire une critique. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un horizon qui est effectivement fondamental, mais mon sentiment personnel serait que tout cela serait à retravailler dans une perspective qui serait moins une perspective, si j'ose dire, du tout ou rien. Voilà, merci.